En tant qu'entrepreneur, il faut de la ténacité pour affronter les défis qui viennent avec la croissance. Face à une importante expansion, les impacts peuvent être très grands et les questions nombreuses pour les employés, les clients ou les partenaires financiers. Comment y faire face avec bienveillance? Dans cet épisode de Libre-Échange, on parle de l'humain au cœur de la croissance d'une entreprise. Sur le terrain, Robert Dion, co-président de l'entreprise Humano-Médical, Bruno Fournier, directeur Centre Desjardins Entreprises, et Julie Carignan, psychologue organisationnelle CRHA chez Humance. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Bienvenue à Libre-Échange. Robert Dion, vous êtes co-président de Humano-Médical, une compagnie qui est basée à Lillet, qui a une histoire assez fascinante qui commence en décembre 2010 lorsque vous apprenez que l'entreprise, donc qui vous engage, a décidé de fermer l'usine et du même coup de mettre à pied 320 employés. Vous êtes bien ancré dans votre région. À l'époque, vous êtes donc gestionnaire et vous vous dites, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas laisser faire ça. Quel a été votre premier réflexe, Robert?
Bien, mon premier réflexe à ce moment-là, c'était il faut qu'on se trouve une façon de sauver les emplois. On était dans le milieu médical aussi, puis dans le milieu médical, il n'y a pas beaucoup d'entreprises au Québec qui font du développement, fabrication de milieu médical. Il fallait qu'on sauve cette expertise-là, qu'on sauve nos employés aussi à Lillet, puis qu'on trouve une façon de repartir ça ultimement.
Humano, c'est une entreprise que vous avez créée donc avec vos trois autres associés. Humano, il y a le mot humain là-dedans, bien sûr. Expliquez-nous un peu ce que vous faites. Vous faites des lits d'hôpitaux assez spécialisé.
Oui, nous, premièrement, on conçoit l'équipement médical, on le fabrique dans nos usines de Lévis, Lillet, Sherbrooke maintenant, et aussi on le distribue à travers le monde. À peu près 60% de notre marché est aux États-Unis. On est en Australie, en Angleterre, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, puis Singapour maintenant. Puis pour nous, notre gros focus, c'est beaucoup l'innovation. On veut développer des produits qui vont faire un gros changement dans la vie du patient. On veut changer les vies, puis on trouve des façons de le faire. Avec toute la pénurie de main-d'œuvre qu'il y a aujourd'hui partout à travers le monde, on le voit dans nos entreprises, on le voit aussi dans le milieu de la santé. Si on est capable de trouver des façons de faire pour qu'ils puissent améliorer leur travail dans le but de réduire leur temps, puis c'est ça qu'on fait avec nos produits. On a des systèmes dans nos produits avec des balances intégrées, des systèmes de détection de sortie de lit, des systèmes qui vont pouvoir aviser justement les infirmières s'il y a du mouvement dans le lit.
C'est ça, améliorer, dans le fond, la façon de travailler des travailleurs de la santé.
Exactement ça, exactement ça.
Votre histoire, l'histoire d'Humano, c'est beaucoup une histoire de résilience, de persévérance aussi, de patience. Vous en parlez de la résilience comme gestionnaire et comme entrepreneur. C'est quoi pour vous la résilience?
La résilience, c'est de toujours trouver le positif dans une difficulté. Puis, ça nous est arrivé plusieurs fois avec les années. Ça nous est arrivé justement en 2010, lorsque l'entreprise américaine, grande entreprise américaine, a décidé de fermer l'usine et déménager au Mexique. Ça nous est arrivé plusieurs fois aussi dans notre parcours après ça. Parce que c'est quand une vie d'entrepreneur, c'est beaucoup d'embûches, comme vous le savez aussi. Il faut trouver du positif là-dedans. C'est tellement important. Le côté aussi, je dirais, positif de cette aventure-là, on était 320 employés. On n'a pas pu partir avec 320 employés. On a pu partir avec 70 employés à ce moment-là. Et ultimement, c'est quand même drôle aujourd'hui, beaucoup des employés qui étaient là sont revenus par après.
Wow. Et j'aimerais que Julie nous explique qu'est-ce que la résilience entrepreneuriale?
Oui, bien, je pense que Robert l'avait très bien décrit en parlant de voir positivement. En fait, c'est la capacité de rebondir suite à des épreuves, de ne pas se laisser écraser. Mais quand il nous arrive quelque chose, être résilient, être résiliente, c'est d'être capable de rebondir après cet obstacle-là et souvent, donc, pour devenir encore plus fort.
Oui. Et vos objectifs, Robert Dion, étaient quand même assez élevés au départ. Parce que quand vous avez décidé de lancer Humano, vous avez rencontré vos 70 employés de l'époque et vous avez dit, nous, on a un plan extrêmement ambitieux.
Oui, c'est ça. On était justement, on est quatre associés au départ qui a parti l'entreprise en 2012. Puis quand on a rencontré nos employés à ce moment-là, pour nous, on avait une idée de revenir assez rapidement à la taille qu'on était. En 2010, il fallait revenir assez vite. Il fallait aussi avoir une belle présence. Comme ça, on leur a dit à la première rencontre, notre vision, c'est d'être à 50 millions dans 5 ans et 100 millions dans 10 ans. Puis c'était notre vision, c'était notre objectif ultime.
L'expansion, la croissance, l'innovation, comment vous gérez ça comme entrepreneur?
On a un gros budget toutes les années en recherche et développement. On a 80 personnes à temps plein en recherche et développement présentement qui sont à travailler, à innover, à développer et lancer des nouveaux produits ultimement. On a un nouveau produit qui va sortir à peu près dans un an et demi. On a lancé l'année dernière une nouvelle gamme de matelas haut de gamme aussi qui va aller à l'intérieur de nos produits. Des matelas avec des pompes intégrées et ainsi de suite. Beaucoup, beaucoup d'électronique. Il y a beaucoup, beaucoup d'innovation dans notre processus.
Il y a beaucoup d'humains aussi. Je reviens à votre nom, Humano. C'est important pour vous qu'il y ait cette notion?
C'est très important. Puis si on revient en 2012, juste avant de quitter, on était les quatre partenaires à ce moment-là. On s'est dit, sur quelle base qu'on va bâtir cette entreprise-là? À ce moment-là, notre première valeur qu'on a sortie, on dit l'humain avant tout.
L'importance de l'employé au sein de la réussite et de la croissance d'une entreprise comme Humano?
Est très importante, très importante. Puis pour nous, le temps qu'on était avec la multinationale, nous, ça a été une excellente école aussi. On est passé 12 ans. OK, c'est une entreprise que j'aime beaucoup aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un compétiteur, mais j'aime cette entreprise-là. Puis une des bonnes pratiques qu'on a conservées, c'est tout est axé avec les forces des individus. Puis pour nous, à tous les fois qu'on ouvre un poste, on détermine quel type de force va être importante pour que la personne puisse s'exceller dans sa position. Puis, quand on recrute, on essaie justement de trouver des personnes dont il va avoir un peu qu'on appelle nous autres le fit parfait.
Ouais.
Puis, à ce moment-là, la personne, on va toute la mettre dans une position où elle va être capable d'exceller dans son travail. Puis, si la personne excelle dans son travail, elle va avoir du plaisir. Si elle a du plaisir, elle va être engagée puis elle va donner un service impeccable à nos clients.
Et vous investissez aussi, comme entreprise, dans des programmes d'accompagnement, de développement de votre main-d'œuvre.
Assurément, assurément. Au niveau de nos managers, les personnes qui rentrent dans l'entreprise, on a un programme d'un an de formation à l'interne.
Ils apprennent quoi dans cette formation?
De comment gérer les employés avec leurs forces, comment gérer un département avec les forces complémentaires de chaque personne. On dit toujours, souvent, dans une évaluation, de façon naturelle, on va axer vers la faiblesse de la personne. Il faudrait t'améliorer telle chose. Pour nous autres, on se dit, regarde, focus sur tes forces, puis d'autres personnes dans l'équipe vont complémenter ta faiblesse. On a eu du succès avec cette formule-là. On est parti, justement, en 2012, de zéro chiffre d'affaires à au-dessus de 100 millions en 10 ans. C'est avec des personnes talentueuses. C'est pas ouais. Juste moi et mes associés qui ont fait ça. C'est des personnes talentueuses qui ont fait ça. Il faut juste qu'on positionne les personnes dans leur talent, puis ils vont pouvoir accomplir les miracles.
Il y a un livre qui vous a marqué, Robert Dion, c'est « Naviguer contre vents et marées », écrit par Marcus Buckingham. Et il y a dans ce livre-là une grande leçon, une phrase vraiment fabuleuse. Quelle est cette phrase?
C'est qu'on peut apprendre une tortue à grimper aux arbres, mais mieux vaut embaucher un écureuil.
Voilà.
C'est beaucoup facilitant.
Exactement. Vous aviez dit à vos employés au départ de votre vision, là, votre grand projet, votre objectif, vous aviez dit 100 millions dans 10 ans. Vous l'avez dépassé. Si je vous dis dans 5 ans, dans 10 ans, Humano sera où?
Et pour nous autres, on continue de faire notre développement international. C'est sûr que dans les 5 prochaines années, on va encore plus que doubler. On vient juste de sortir de notre planification stratégique. On va plus que doubler. On va s'établir aussi à l'extérieur du Canada.
Merci beaucoup, Robert Dion.
Un plaisir.
Et j'ai remarqué à quel point vous regardiez Bruno Fournier, qui est en charge du Centre Desjardins Entreprises Région de la Côte-Sud. Merci d'être là, Bruno. Vous avez d'ailleurs fait le chemin ensemble. C'est pour montrer à quel point vous êtes plus qu'un partenaire stratégique, Bruno, pour Humano Médical.
Oui, bien, effectivement, c'est une complicité qui date depuis plus de 10 ans.
Vous avez été témoin de cette croissance fulgurante, je pense que le mot n'est pas trop fort, d'Humano Médical. Comment vous la qualifiez, cette croissance, Bruno?
Vous avez raison de dire que c'est une croissance qui est quand même assez exceptionnelle.
Oui.
Moi, ça fait quand même près de 28 ans que j'accompagne des entrepreneurs dans mes fonctions. Puis une croissance comme ça, c'est une première, honnêtement.
Ouais. Mais au départ, il y a la notion, OK, comment on gère le risque quand même comme institution financière? Comment on aborde ça? Comment on calcule son risque?
Une des qualités de Robert, lorsqu'il venait nous rencontrer, dans les bons et dans les moments plus difficiles, on avait toujours l'heure juste.
La transparence.
La transparence. Puis ça, ben, ça nous donnait confiance. Puis nous, on devient après ça les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise avec Desjardins.
Comment vous gérez la croissance du Mano? Comment on gère ça comme partenaire financier?
Comment on fait ça? On parlait de relations de transparence, des rencontres de temps à autre, 3 ou 4 fois par année pour être en mesure de voir 2 coups d'avance et arriver dans une certaine situation, sortir les bons produits au bon moment avec les bonnes personnes pour justement assurer d'avoir toujours à être au marché. En lien, oui, la tarification, mais les conditions de financement, ou peu importe. Là.
Ah ben. Ce qui est important aussi avec nos partenaires financiers aussi, c'est qu'on puisse faire qu'est-ce qu'on dit aussi. Lorsqu'on se donne des objectifs, de rencontrer ces objectifs-là, c'est une situation de confiance.
C'est ça.
Avec les années, toutes les fois, on faisait des planifications, puis on rencontrait nos planifications. Souvent, on les dépassait tout le temps. Comme ça fait en sorte que, avec les années, il y a une confiance qui s'installe.
Ouais. Vous saviez que Bruno et son équipe vont être là, vont vous donner les moyens de vos ambitions.
Exactement ça. Puis ils savent que quand je leur dis quelque chose, on va le réaliser. Comme ça, à ce moment-là, c'est une confiance qui s'amène avec les années.
Ouais, parce que vous avez parlé d'investissement en technologie. Vous dites 80 personnes qui s'occupent de R&D au quotidien. Ça veut dire des investissements aussi, ça?
Assurément.
Hein? C'est beaucoup d'argent. Donc, vous êtes là, vous êtes derrière, vous secondez.
Oui. Puis on est là aussi pour travailler avec des partenaires. On peut pas toujours être la seule et unique solution, donc on n'a pas peur de travailler avec d'autres intervenants. Puis c'est en équipe aussi. C'est toujours pour le bien-être de l'entreprise.
Planifier de façon stratégique dans un contexte de croissance fulgurante, surtout quand l'entrepreneur dit « on va doubler dans 10 ans », c'est ce que vous avez dit, Robert?
5 ans.
5 ans! Bon, 5 ans. Comment on fait ça? Comment on gère? Ça prend des exercices de planification stratégique extrêmement raffinés, j'imagine?
Oui, mais en même temps, pour nous, c'est facile. Robert nous a toujours impliqués dans les discussions. De temps à autre, on se rencontre régulièrement. Puis cette planification stratégique-là, où on se voit dans 3 ans, 5 ans, au fur et à mesure, lorsqu'on se rencontrait, on était capable de bien évaluer comment que le plan pouvait avancer.
On a toujours un plan environ de 5 ans avant de nous qui avance tout le temps comme ça. Puis c'est des informations qu'on partage avec nos partenaires financiers.
Ouais.
Comme ça, c'est ça justement que les partenaires aiment beaucoup parce qu'ils voient un peu où est-ce qu'on s'en va. Ils voient les projets qu'on va pouvoir réaliser. Ils voient qu'est-ce qu'on va faire comme revenu avec ces projets-là ultimement.
Ça devient très concret pour vous.
Il y a une rigueur aussi à travers tout ça. Cette rigueur-là de voir 3 ans, 5 ans d'avance, nous impliquer à travers tout ce processus-là, ça fait la différence.
Aujourd'hui, on se dit, entreprise, chef de file dans le secteur médical, on se dit, ben, forcément, secteur d'avenir, mais il y a quand même aussi eu certaines embûches qui auraient pu vous rendre frileux comme institution financière.
Oui, mais dans tout événement, il faut voir des opportunités. Quand on visite une entreprise, nous, comme institution financière, ben, on voit beaucoup de choses. Hein?
Ouais.
Puis on est en mesure de voir ce qui fait la différence. Une entreprise qui est bien ordonnée. Tantôt, on parlait de l'humain.
Ouais.
On le voyait aussi, on pouvait le sentir.
Ouais. Et on en parlera avec Julie, parce que Julie Humans, psychologue organisationnelle, est dans l'humain aussi. Fait que ça, mais cette notion-là est importante de connaître ces gens pour les faire avancer. Vous avez parlé aussi de l'importance pour le développement des compétences puis de la main-d'œuvre aussi, pour attirer la main-d'œuvre. On sait à quel point c'est stratégique d'attirer la main-d'œuvre puis de la garder. Du fait d'être sorti de l'îlet puis d'avoir développé Québec, d'avoir développé Saint-Romuald. C'était nécessaire, Robert?
C'était critique.
C'était critique,
C'était critique. Nous, on a fait ça fait déjà 5 ans. Puis aujourd'hui, c'est notre croissance. On n'aurait pas été où ce qu'on est aujourd'hui si on n'avait pas fait ce move-là en 2018.
Interrégional, finalement.
Exactement ça, parce que nous, on avait quand même beaucoup de travailleurs de Québec qui faisaient soir et matin, il y a 1 heure de route. Puis aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, les jeunes, ils ont plein de choix. Comme ça, s'ils ont le choix de faire 2 heures de route par jour, 10 minutes de route par jour, ou encore mieux aujourd'hui, travailler de la maison.
Exact.
Évidemment, ils vont prendre le choix le plus simple. Comme ça, pour nous, en 2018, on a fait ça. Puis au départ, c'était un petit bureau, 4000 pieds carrés. Puis aujourd'hui, à Lévis, on a 72 000 pieds carrés.
Wow. Et vous, ça vous paraissait une décision tout à fait logique?
Bien, à chaque fois qu'on visite l'entreprise à Saint-Rubert, on dirait que ça a grandi tout le temps. C'est incroyable.
On a grandi 5 fois depuis 5 ans.
Wow, impressionnant. Julie Carignan, psychologue organisationnelle, CRHA chez Humans. On a parlé beaucoup de résilience parce que Robert vous résumez un peu le succès du Mano à une histoire de résilience, Robert. Et quand vous regardez son histoire, Julie, qu'est-ce que vous retenez, en fait?
Je la trouve tellement inspirante, cette histoire-là, parce que je retiens justement, c'est des gens qui ont eu l'audace de dire, on peut pas laisser ça se passer, on peut pas laisser la fermeture se passer. Et donc, c'était pas des gens qui avaient choisi à 10 ans, je vais être entrepreneur quand je vais être grand. C'est venu d'une nécessité, d'un souhait profond, d'une volonté de faire vivre cette organisation-là au Québec avec cette vision-là, une vision très claire. Donc, beaucoup d'audace, beaucoup de résilience et évidemment beaucoup d'humains qui ont fait le succès. J'entends toute l'approche par talent qui a été décrite de miser sur les talents de chaque personne pour réussir. La relation de collaboration, de transparence, de confiance. Donc, oui, une histoire très inspirante.
Vous dites que ça prend beaucoup de talent pour réussir comme entrepreneur.
Oui. En fait, ça prend beaucoup de talent et c'est pour ça que c'est important d'être bien entouré.
Ouais.
J'aime bien l'analogie de la tortue et de l'écureuil aussi. Quand on entreprend, on vit différentes phases dans les organisations. Il y a des moments où on a besoin de talent, plus de développement, de création, d'autres moments où la prudence va nous servir, d'autres moments où la rigueur, etc. Et donc, plus on est capable d'être une équipe complémentaire, de mettre les bons talents à la bonne place, au service de l'objectif commun, ça fait toute la différence.
Ouais. Il y a la notion de risque aussi, prendre oui. ou pas le risque. L'entrepreneur prend toujours le risque soit de réussir, soit d'échouer.
Et c'est ce qui fait en sorte que certaines personnes ne sont pas à l'aise. Ça fait partie du travail d'un ou d'une entrepreneur de prendre des risques, de les assumer, prendre des risques bien calculés. Puis justement, quand les personnes qui sont en entrepreneuriat sont bien entourées, ça permet justement une prise de risque calculé et aussi vécu collectivement, c'est beaucoup plus facile parce que c'est lourd porter un risque tout seul sur ses épaules.
Oui, d'ailleurs, j'avais un sondage qui révèle que 60 % des gens qui veulent se lancer en affaires souhaitent le faire avec d'autres. Et je pense que dans votre propre histoire, Robert, le fait d'avoir été quatre au début, ça a dû jouer, sans doute.
Assurément. C'est surtout dans des moments difficiles. Une des choses que je dis souvent, en 2016, dans un épisode très, très critique pour nous, où on dit tout le temps qu'on est à quatre, bien, c'est, on pouvait se partager nos nuits à pas dormir.
Exact.
Puis on se complétait. C'est la façon de se compléter. On peut pas être parfait non plus. On parle de talent d'entrepreneur. Si on est capable d'avoir peut-être plusieurs, ou qu'avec une équipe de direction, pour pouvoir aller chercher les talents complets de l'entreprise, bien, c'est ça qui est le mieux.
Et ça fait souvent la différence, Julie.
Oui, vraiment, parce qu'on voit, il y a beaucoup d'enjeux de stress, d'épuisement. Ça prend beaucoup d'énergie.
Être entrepreneur, souvent, ouais, ouais. Ça peut prendre toute la place.
Et oui, ouais. et parce que, dans le fond, la seule personne, dans le fond, au-dessus de nous, c'est souvent la personne qui nous aide au niveau financier. Donc, on prend beaucoup, beaucoup de pression sur nos épaules.
Ouais.
Et de savoir qu'on a des gens solidaires autour de nous, qu'on partage ce poids-là, ça fait une différence. Parce que oui, souvent en entrepreneuriat, on voit des grands défis de gestion du stress, gestion des émotions. C'est pas facile parce que tu peux pas à un moment donné dire « Ah, oh, je suis trop fatigué, je vais fermer s'il y a une inondation dans une usine. » S'il se passe un imprévu qui est clé, qui est critique pour ton organisation, tu dois être capable de répondre, tu dois être au rendez-vous. Donc, ça demande beaucoup d'énergie.
Ouais. On parle beaucoup de charge mentale dans la société. Peut-être pas assez de la charge mentale des entrepreneurs, qui est énorme parce qu'il y a cette responsabilité de garder les emplois. Il faut être en forme. Il faut être en bonne santé financière, mais il faut être en bonne santé mentale aussi.
Ouais, nous, comme psychologues, quand on accompagne des entrepreneurs, c'est beaucoup ça. C'est pas juste à propos des affaires.
Non.
C'est rester en santé globale. Il faut être en forme autant physiquement que mentalement, comme je dis, pour être capable de travailler aussi intensément, de donner des sprints quand il faut. Donc, il faut vraiment prendre soin de soi pour être capable de répondre de façon optimale à toutes les situations.
Qu'est-ce que vous diriez aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui disent « Oui, d'accord, mais j'ai pas beaucoup de temps. Je suis la première personne à sauter de mon agenda de bien-être. »
Oui, bien, en fait, ce que je dis souvent, c'est justement, ton travail est tellement intense que tu peux pas te permettre de pas t'entraîner. Tu dois être à ton meilleur. Parce que dès qu'on est fatigué, ça affecte notre jugement. Donc, notre qualité décisionnelle, c'est démontré scientifiquement. À mesure que notre fatigue augmente, notre qualité décisionnelle, notre capacité de jugement diminue. Puis s'il y a quelque chose qui n'est pas optionnel en affaires, c'est bien ça. Donc, ça affecte notre jugement, ça affecte notre tolérance. Donc, on devient moins reposant pour les gens autour de nous. Et que les relations, c'est tellement important aussi. Donc, quand on ne fait pas attention à soi, c'est pas juste une question de « on paye le prix personnellement ». On est moins performant, on est moins présent pour les autres, on est moins à l'affût de ce qui se passe dans notre environnement. Donc, on se doit d'être en forme, pas juste pour notre bien-être, mais pour notre performance. Puis quand je parle d'être en forme, c'est autant physiquement que psychologiquement. Donc, de vraiment prendre soin de soi, se dégager des moments de recul, oui, c'est intense. C'est-à-dire, comment on peut prendre des micro-vacances à travers tout ça? Donc, on se doit de gérer notre niveau d'énergie comme si on était comme des athlètes. On est aux Olympiques des affaires quand on veut avoir du succès comme entrepreneur. Donc, faut avoir un peu une vie d'athlète au niveau de notre capacité de s'assurer qu'on atteint la meilleure version de nous-mêmes.
Vous parliez de la transparence. Julie, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que la transparence dans la relation avec son institution financière, bien sûr, avec ses employés aussi, mais parfois, c'est difficile de bien communiquer. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux entrepreneurs?
Oui, parce que c'est souvent un défi qu'on voit. Oui. Il y a des entrepreneurs qui ont une super vision, mais qui ont de la difficulté à la partager. Puis je trouve justement dans le récit qu'on a eu, c'est cette capacité-là d'avoir partagé la vision à ses employés, à ses partenaires financiers. Ça fait partie du succès. C'est pas toujours facile de la communiquer. Puis la transparence, bien, ça prend... il faut vraiment avoir une forte conviction, une forte confiance. Puis le préalable à la transparence, c'est la confiance. Quand il n'y a pas de confiance, c'est très dur d'être transparent parce qu'on veut se protéger. Donc, de travailler dans une base de confiance en disant « j'ai intérêt à parler pas juste de ce qui va bien, mais de mes zones de vulnérabilité qui est là pour m'aider », justement. Puis quand on a la conviction qu'on est là pour travailler l'objectif commun, on est là pour s'entraider, ça fait toute la différence parce que c'est très difficile d'avoir des relations de transparence quand on se méfie, quand on sent que la personne gère avec un fichier Excel là, plutôt qu'avec vraiment une compréhension intime de nos affaires, de nos aspirations, de nos doutes. Donc, ça fait toute la différence.
Sur le fichier Excel, ça, vous me l'avez dit, cette phrase-là, Robert. Vous dites, il faut aller au-delà du fichier Excel. Il faut regarder les entreprises au-delà de ça.
Exactement ça. C'est un conseil qu'on donne beaucoup réellement aux financiers. Il faut voir vers l'individu, voir sur la capacité de l'individu au-delà du fichier Excel, comme on dit, au-delà des chiffres qui peuvent sortir de là. C'est la clé. Puis, c'est ça qui nous est arrivé.
Ça a été ça, la grande force de Desjardins dans le dossier Humano, en
tout cas. Oui, tout à fait. Puis on en est très fiers, mais en même temps, c'est pas juste Bruno Fournier, c'est le travail de toute une équipe à l'intérieur de ça.
Oui, mais la transparence se mérite. Parce que souvent, tu sais, il y a des gens qui exigent la transparence, mais si à chaque fois qu'on affiche une vulnérabilité, etc., on te sent reculer, on sent qu'il y a des portes qui se ferment, etc., on n'aura pas tendance. Donc, là-dessus, effectivement, dans la posture adoptée par le partenaire financier, la transparence s'est méritée par justement la relation humaine qui s'est développée.
Libre-échange est une présentation de Desjardins Entreprises. Je m'appelle Isabelle Maréchal. Je me suis entretenue avec Robert Dion, co-président Opérations Finance et Administration Humano Médical, Bruno Fournier, directeur Centre Desjardins Entreprises, et Julie Carignan, psychologue organisationnelle CRHA et associée chez Humance. Je vous invite à visionner les autres épisodes de la série sur la chaîne YouTube Desjardins.